la stratégie indo-pacifique de la France. Elle est donc au cœur de la participation d'Emmanuel Macron au sommet du Forum de coopération économique pour l'Asie-Pacifique qui vient clore une séquence diplomatique importante dans la région après une réunion de l'ASEAN la semaine dernière et le G20 de Bali mardi et mercredi. Ce sommet de l'APEC, le président français est aussi le premier dirigeant européen à y être invité, un geste dans lequel il veut donc voir un signe. Pour en parler, on retrouve tout de suite Pierre Journoux. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul-Valéry Montpellier III, spécialiste des aspects politico-stratégiques des conflits et des processus de paix dans la péninsule indo-chinoise, auteur de plusieurs ouvrages sur l'Asie et le Vietnam également. Pierre Journoux, pourquoi Emmanuel Macron fait-il aujourd'hui de l'Indo-Pacifique une priorité pour la France? En d'autres termes, pourquoi Paris juge important de se projeter dans cette zone qui est finalement très éloignée hein, et pas forcément dans la sphère d'influence française traditionnelle?
Alors, elle est à la fois très éloignée et centrale dans l'économie mondiale, centrale dans les principales menaces sécuritaires qui pèsent aussi, on l'a vu avec la crise taïwanaise cet été, on l'a vu également avec une montée en puissance de la Chine dans la mer de Chine méridionale, une militarisation de certains îlots de cette mer de Chine méridionale, et puis une forme de radicalisation aussi dans la relation sino-américaine qui oppose deux visions de la région et du monde. Donc je pense que Emmanuel Macron a toutes les bonnes raisons de se trouver au bon endroit, je dirais, dans le monde, là où tout se décide, l'essentiel se décide, y compris d'ailleurs à propos de l'Ukraine, puisque la Chine est l'un des principaux partenaires de la Russie dans ce conflit. Même si elle a pris un certain nombre de distances, on voit bien que la relation russo-chinoise, ou sino-russe, est effectivement centrale dans l'avenir de l'Europe aussi.
Vous commenciez à y faire allusion, Pierre Journoux, cette région indo-pacifique, elle est écrasée hein, par plusieurs géants, la Chine, l'Inde, les États-Unis également. Dans ce contexte, quel rôle peut y jouer Paris?
Oui, alors Paris a déjà un héritage historique dans la région. Elle a été puissance coloniale, elle a gardé des relations importantes avec l'ancienne Indochine, hein, notamment le Vietnam, qui est un des partenaires relativement centraux dans cette région de l'Asie du Sud-Est. Et elle a élargi aussi ses partenariats, et notamment stratégiques d'ailleurs. Elle a plusieurs partenaires stratégiques avec l'Indonésie, avec Singapour, dans les années 2010. Donc on a des points d'ancrage, je dirais, qui se sont diversifiés après la période coloniale et dans la période de la guerre froide et post-guerre froide qui n'ont cessé de se développer. Donc c'est vrai que la relation que nous avons avec cette région qui se double d'une relation croissante entre l'Europe et l'Asie du Sud-Est et l'Europe et l'ASEAN en particulier, elle est très importante parce que l'Asie du Sud-Est est en quelque sorte un peu le pivot de cet axe indo-pacifique que le président de la République a d'ailleurs été un des premiers à adopter dans le narratif diplomatique à la fin des années 2010-2018.
Je vous en prie.
On a aussi, bien sûr, les collectivités d'outre-mer, hein, donc dans le Pacifique en particulier, une vaste zone économique exclusive autour des archipels polynésiens et de Nouvelle-Calédonie en particulier. Et on a tout un axe qui est devenu foncièrement stratégique entre la mer de Chine méridionale, l'Océanie, telle qu'on l'appelle chez nous, dont on voit bien qu'il commence aussi à être investi massivement par la Chine.
Mais justement, Pierre Journoux, pour la France, compte tenu de tout cela, elle a les moyens de ses ambitions? Parce que je crois qu'elle n'a que 7 ou 8 000 soldats, par exemple, qui sont déployés sur toute la zone. Ça ne fait pas beaucoup, non, vu sa taille?
Vous avez raison. Peut-être d'ailleurs que notre communication est trop axée sur des moyens militaires, sur notre présence navale notamment. On a rehaussé un petit peu notre niveau de notre présence depuis 2019, me semble-t-il. On a envoyé le Vendémiaire qui se trouve sur place, mais surtout le Charles de Gaulle, un groupe aéronaval. On a envoyé un sous-marin nucléaire d'attaque. On a envoyé un certain nombre de bâtiments qui ne sont quand même pas des moindres. Et puis, la dernière mission, c'est Pégase en 2022. Grande mission, un groupe là aussi aéronaval. Je ne suis pas certain que… Alors, c'est sans doute important pour afficher une présence, une crédibilité politico-militaire. Mais il me semble que ce n'est pas suffisant. Heureusement, nous avons d'autres points d'ancrage dans notre diplomatie dans la région. C'est la lutte contre le réchauffement climatique, la défense de l'environnement, de l'écologie, etc. Ça me semble extrêmement pertinent parce que ça répond à des demandes locales croissantes hein, dans des pays qui ont connu une forte croissance démographique, croissance urbaine, un développement accéléré et qui ont d'énormes problèmes hein, de pollution notamment et qui sont confrontés au premier chef au réchauffement climatique. Donc là, ça rejoint l'actualité que vous avez évoquée tout à l'heure sur la COP 27. Mais on a, je pense, encore, malgré effectivement notre éloignement et la modestie de nos moyens, surtout quand on les compare à la Chine et aux États-Unis. Cela dit, quand on les compare à d'autres pays européens, on est plutôt bien placé. Hein. Donc, on a encore des marges de manœuvre à investir, et il me semble notamment dans le cadre des défis stratégiques qui sont immenses dans cette région.
Merci beaucoup, Pierre Journoud, d'avoir répondu à nos questions sur RFI ce jeudi. Je rappelle que vous êtes professeur d'histoire contemporaine à l'Université Paul-Valéry Montpellier 3. Merci à vous.
Merci à vous.